Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder un sujet bien qui nous concerne tous, la santé, mais au travers du prisme de la relation entre les inégalités sociales et l'état de santé et la manière dont on se soigne et la manière aussi dont on a accès aux soins. Pour répondre à mes questions sur ce sujet, aujourd'hui, mon premier invité sera le docteur Gérald Kirzek. Bonjour Gérald.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, également directeur médical d'Optissimo. On a effectivement beaucoup de questionnements autour de cette situation. Est-ce que vous diriez, ce sera ma première question, que on a des inégalités qui se creusent dans l'accès aux soins, dans la manière dont on a aujourd'hui, dont on est suivi médicalement. Est-ce que vous avez le sentiment, puisque vous êtes aussi en première ligne hein, aux urgences, qu'il y a une dégradation de la situation ?
Ah ben c'est pas qu'une impression, c'est-à-dire aussi bien d'un point de vue d'urgentiste, de praticien, mais tous mes collègues, je pense que François de Navarre pourrait dire la même chose, quoi, collègues généralistes ou urgentistes, mais aussi du côté des patients, c'est-à-dire qu'à l'échelon individuel, on voit bien que l'accès aux soins est devenu un problème et que ça se creuse, ça s'aggrave. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que tout le monde le sait, malheureusement. Et c'est ça le drame. C'est-à-dire que vous prenez encore les publications du ministère de la Santé, de l'adresse, hein, qui est la direction statistique du ministère de la Santé. Ils viennent de sortir cette semaine un rapport montrant que les inégalités se creusent entre le nord de la France et le sud de la France, entre les gens plus âgés et les gens plus jeunes, entre les ados dans des zones favorisées versus des ados dans des zones moins favorisées. C'est-à-dire que le nombre aussi d'inégalités se creuse ou se multiplie. Et ça va pas s'arranger hein, quand on voit que la population vieillit de plus en plus. Ça va toucher de plus en plus de monde. Et ce qu'on appelait la médecine à deux vitesses, vous savez, on disait on veut pas qu'on ait une médecine à deux vitesses. Mais on est déjà depuis des années dans une médecine à plusieurs vitesses, à multiples vitesses. Et ça, c'est assez dramatique.
Alors, l'intérêt de notre émission, c'est justement d'essayer de comprendre un petit peu les choses en allant aussi sur les causes. Vous dites médecine à deux vitesses, mais aussi, en fait, c'est par rapport aussi à l'état de notre société. Je prenais quelques indicateurs. Il y a des publications de l'INSEE sur les inégalités sociales de santé. Et l'INSEE nous explique que ça commence dès la grossesse. Puisque, par exemple, on a 34% des ouvrières, donc catégorie sociale, qui fument, alors que chez les cadres, on est quasiment proche de zéro. Donc, on a ensuite aussi, dès 6 ans, les enfants des milieux modestes qui ont souvent des surcharges pondérales plus importantes que... Donc, autrement dit, le milieu social, dès les premiers pas, dès même la grossesse, bah, ça peut finalement ensuite que s'aggraver.
Exactement. Et vous savez, il y a la déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent libres et égaux en droit. Bah, c'est faux. C'est-à-dire que malheureusement, c'est une déclaration d'intention, mais que dans la réalité, eh bien, vous venez de le dire, pendant la grossesse, mais je vais même avant la grossesse, les déterminants de santé de l'obésité à l'âge adulte sont déterminés pour une partie, bien sûr, et rien n'est jamais irréversible, mais c'est déterminé avant la grossesse. Sur le comportement de la maman et du papa, on oublie aussi que le comportement du papa, le fait de fumer, de prendre des toxiques, de l'alcool, ça altère la qualité des spermatozoïdes et donc potentiellement ça donne des anomalies chez l'enfant à naître. C'est-à-dire qu'il faut prendre ça très en amont. Et puis on ne naît pas libre, égaux en droit du coup en termes de santé ou d'état de santé, mais on ne meurt pas non plus de la même manière. Quand on regarde à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire la mort, l'espérance de vie dans le nord de la France ou dans des catégories socio-professionnelles défavorisées est largement inférieure à celle de populations favorisées. C'est-à-dire que de la naissance jusqu'à la mort, et on peut passer toute la vie comme ça en revue, on a une inégalité d'accès aux soins, d'accès à l'information. Vous venez d'en parler aussi. C'est-à-dire que tous ces conseils prévention, tout ce bien-vivre, eh bien, elle n'est pas accessible pour toute une partie de la population parce qu'il n'y a pas d'accès à cette information. Nous, sur Doctissimo, on essaye d'avoir justement, par Internet, c'est gratuit, un accès à ces conseils de prévention.
Oui, vous voulez faire de la pédagogie.
Bah, on fait de la pédagogie, la sécurité sociale organise des bilans de santé. Le ministre vient de lancer 3 consultations de prévention à 25, 45 et 65 ans, mais globalement, on voit bien que la prévention, on passe complètement à côté. Et puis après, quand on est malade, le dépistage, les soins, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est très inégalitaire. Quand vous avez de l'argent, vous allez pouvoir aller voir un médecin avec souvent des dépassements d'honoraires, surtout dans les grandes villes. Parce que là aussi, la médecine n'a pas été revalorisée depuis des années, mais quand vous n'avez pas cette possibilité-là, là, vous vous retrouvez aux urgences. Donc moi, en tant qu'urgentiste, je vois des gens qui arrivent, qui n'ont jamais eu de suivi, qui n'ont jamais eu de dépistage et qui arrivent avec des états avancés de cancer, par exemple, ou de pathologies qu'on aurait pu prévenir. Et c'est déchirant pour un médecin de se dire, mais on aurait pu faire quelque chose. Oui. C'était le beau modèle d'après-guerre, hein, du Conseil national de la résistance, de créer la sécurité sociale en disant on cotise selon nos moyens, mais on utilise le système selon nos besoins, en fait. Et on s'aperçoit que la sécu, ça suffit plus.
Oui, ce que vous voulez dire, c'est que quand vos patients arrivent aux urgences, c'est souvent quand les pathologies sont déjà déclarées ou avancées et que finalement, avec un meilleur suivi préventif, on aurait pu non seulement prendre ces pathologies à une autre étape, mais aussi sauver des vies. Parce que parfois, malheureusement, il y a des maladies, et notamment les cancers. Une fois qu'on a atteint un certain stade, c'est le pronostic vital qui est engagé.
Les urgences, c'est un peu l'échec de la prévention ou d'un accès aux soins autres. Alors, moi, ce qui m'écœure, c'est qu'on essaie de dissuader les gens d'aller aux urgences. On ferme les urgences, appelez le SAMU centre 15, ne venez pas pour rien, c'est pour de la bobologie, etc. Mais les gens, ils ne viennent jamais pour rien aux urgences. Ils viennent parce qu'ils ont mal, ils viennent parce qu'ils ont quelque chose de grave ou de pas grave. Mais c'est une fois qu'on a vu un médecin qu'on peut dire c'est grave ou c'est pas grave. Et donc, c'est là où, là aussi, ça va creuser les inégalités parce que les gens qui ont le numéro de portable d'un médecin dans leur réseau, et là, on voit bien les différences de milieux socioculturels. Si vous avez un ami médecin, vous savez, moi, mes parents, ils n'avaient pas d'amis médecins. Et je m'aperçois que là, moi, qui suis médecin maintenant, j'ai plein de gens qui m'appellent, etc. C'était quelque chose que une bonne partie de la population ne pouvait pas et ne peut pas faire. Donc, quand vous n'avez pas de portable d'un médecin, qu'est-ce que vous faites? Vous allez aux urgences, parce que quand vous avez mal à la poitrine, vous ne savez pas si c'est grave ou si c'est pas grave, si c'est une bronchite ou si c'est un infarctus du myocarde. Et en 2022, dans un pays comme la France, on doit pouvoir accueillir tout le monde aux urgences. Et ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de dissuader les gens d'aller aux urgences, va coûter des vies, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui vont pas y aller, ou vont se dire « ah ben j'attendrai quelques jours », etc. Et malheureusement, si c'est un accident vasculaire cérébral, un AVC ou une maladie, un infarctus, on risque de perdre des vies. Donc moi, je pense qu'on est dans un pays où les inégalités se creusent et qu'on devrait, au contraire, garantir à tout le monde un médecin traitant, une prévention égalitaire, l'accès à des médecins spécialistes et, si besoin, l'accès aux urgences sans culpabiliser les gens.
Alors maintenant, on a un suivi médical individuel à travers un compte Amélie, Sécurité sociale, et on est censé déclarer, être pratiquement obligé de déclarer un médecin traitant. Donc est-ce que c'était pas aussi une volonté de la Caisse d'assurance maladie, de l'État, d'aller, alors il y avait peut-être des raisons budgétaires, financières derrière, mais d'aller aussi vers un meilleur suivi de chaque Français finalement?
Non mais moi je veux bien qu'on ait un médecin traitant, bien sûr qu'il faut avoir un médecin traitant, le problème c'est quand...
c'est obligatoire, il faut le déclarer, sinon vous êtes moins bien remboursé.
Non mais d'accord, mais les gens ils veulent avoir un médecin traitant, ils veulent le déclarer, le problème c'est quand il n'y en a pas, comment vous faites? C'est-à-dire que quand vous n'avez pas dans votre ville, il y a plus de médecins, on parle des déserts médicaux, où vous avez des médecins qui sont déjà avec leur carnet de rendez-vous plein et qui ne prennent pas de nouveaux patients, parce que c'est ça la réalité, comment vous faites? Il faudrait à ce moment-là que ce soit la Caisse d'assurance maladie qui vous donne la sécu, qui vous donne un médecin traitant. Mais moi, il y a plein de gens qui veulent en avoir un et qui peuvent pas en avoir un. Donc on voit bien que ce problème du médecin traitant, de la démographie médicale et des déserts médicaux est un vrai problème. Il va falloir à un moment donné qu'on puisse aussi remotiver les médecins à faire de la médecine générale, à aller dans des zones où on en manque, parce que finalement, on manque pas tellement sur le territoire d'un nombre de médecins. On a beaucoup de médecins sur le territoire.
C'est l'implantation.
Praticiens. En revanche, il y a des inégalités d'implantation entre le nord et le sud, entre le public et le privé, et entre spécialité ou spécialité de médecine générale. Donc on voit bien que là aussi, il va falloir prendre ce sujet à bras le corps, mais on fait tout pour taper sur la tête des professionnels de santé. Donc au bout d'un moment, les professionnels de santé en ont un peu marre, et malgré leur serment d'Hippocrate, malgré toute la compétence et la bienveillance, il y en a beaucoup qui jettent l'éponge.
Alors c'est vrai que là, vous Vous évoquez le problème de la médecine de ville, hein, de la présence de médecins, de cabinets médicaux. C'est vrai qu'il y a des sujets. Moi, je voudrais aussi vous poser une question sur justement, bon, ces médecins qui, alors, vous êtes aux urgences, mais finalement, le médecin de proximité, normalement, c'est le médecin traitant quand on en trouve un. Bon, mais est-ce que vous pensez que l'approche aujourd'hui qui est souvent assez médical. Est-ce que vous pensez que le médecin il n'a pas aussi un rôle de prévention sur les questions d'alimentation, de sédentarité, des addictions? Est-ce que finalement il faudrait pas aussi sensibiliser les médecins à la médecine de ville, ou peut-être créer alors des consultations obligatoires, mais surtout accentuer le discours de prévention? Souvent les gens viennent voir le médecin quand ils ont une pathologie, mais avant ça, il y a aussi des manières de vivre qui font qu'on est en meilleure santé ou en moins bonne santé.
Mais les médecins, ça fait partie de notre boulot de faire de la prévention. Et en permanence, en consultation, on ne fait pas que du soin. On fait de la prévention. Quand je vous prends la tension artérielle, c'est de la prévention. Puisque j'essaie de détecter une hypertension artérielle. Donc c'est de la prévention. De donner des conseils hygiéno-diététiques, comme on dit, c'est-à-dire vous dire comment mieux manger et moins manger, c'est la première ligne de toutes les recommandations médicales. C'est la première chose avant de traiter un diabète, c'est la première chose avant de mettre des médicaments. Donc on fait de la prévention, c'est ce que font tous les collègues parce que ça fait partie de notre métier. On ne peut pas dissocier la prévention du soin. Le problème, c'est que il faut avoir le temps pour le faire. Et quand vous avez un système où globalement la médecine générale est payée à l'acte avec des tarifs de consultation moins chers qu'un plombier et que vous avez besoin ou nécessité de faire énormément de consultations parce qu'il y a plein de gens dans votre salle d'attente, ça prend du temps de faire de la prévention et c'est là où vous avez moins le temps de le faire. Et puis il n'y a pas que les médecins qui font de la prévention. L'information de médiatique, par exemple, en fait partie. Il y a probablement des nouveaux métiers à créer. Bon, vous savez, je serai ministre de la Santé, qu'est-ce que je ferai? Je ferai une génération prévention. Et donc je prendrai toute la génération des bébés qui vont naître et je les accompagnerai. Je les accompagnerai, y compris des coachs nutritionnels dans les supermarchés, parce qu'on sait très bien qu'il y a des inégalités sociales, les gens ne savent pas forcément lire le Nutri-Score, vous savez, le ABCDE là, sur les paquets en fonction des qualités nutritionnelles, eh bien accompagner pour remplir son panier de courses, à la fois pour que ça soit moins cher, mais surtout que ça soit meilleur pour sa santé, ça serait un vrai job à créer. Et ça, c'est pas du rôle du médecin, ça serait en collaboration avec des médecins, mais ça serait un vrai job. Accompagner les gamins, justement, à faire du sport, à bouger. Il y a l'éducation nationale, mais on pourrait imaginer. Et quand vous êtes dans une famille favorisée, vous avez la possibilité de faire du sport. Quand vous êtes dans une famille défavorisée, c'est pas toujours évident. Donc il y a tous ces nouveaux métiers qui permettraient, et ça je peux vous le garantir, dans 30 ans, de résorber le trou de la sécu. Parce que ça serait de l'investissement, et toutes les maladies cardiovasculaires, 80%, les infarctus, les AVC, on peut les prévenir en faisant de la prévention. Donc ça veut dire que ce qu'on dépense sur le traitement des maladies cardiovasculaires, des AVC, en traitement hospitalier, de médicaments, eh bien dans 30 ans, si on accompagnait la génération d'aujourd'hui à ce qu'il n'y ait plus de maladies cardiovasculaires, en tout cas 80%, c'est-à-dire la majorité, eh bien ça résorberait le trou de la sécu. Le seul truc, c'est qu'il faut raisonner à long terme. C'est un peu comme l'éducation nationale. Quand vous éduquez un gamin, c'est pour en avoir les bénéfices des dizaines d'années après.
Alors, il y a eu aussi un moment qui a marqué tout le monde, évidemment, c'était l'épidémie du Covid-19. Hein. Bon, même si pour l'instant, il semble que les indicateurs sanitaires sont plutôt bons, on va rester prudent. Néanmoins, ça a été aussi un moment où on a à nouveau parlé des inégalités sociales de santé, puisque eh bien, on s'est rendu compte que les plus modestes, les gens les plus précaires, les plus pauvres, étaient ceux chez qui le Covid frappait le plus, et notamment en termes de mortalité. Alors vous me direz, c'est aussi parce que certains avaient des prédispositions, des comorbidités, comme des problèmes cardiovasculaires non détectés. Mais on a eu aussi ce débat-là, on y est passé assez vite, mais ça a été un moment quand même des choses qu'on a entendues.
Bien sûr, les inégalités, elles ont frappé durement les plus modestes dans le confinement, parce que c'est pas pareil de vivre son confinement enfermé. D'ailleurs, on risque plus de se contaminer quand vous êtes enfermé à plusieurs dans un appartement que quand vous êtes dans une maison en bord de mer. Donc l'inégalité sociale, elle frappait pendant le confinement. Elle frappait, vous venez de le dire, parce qu'il y avait plus de comorbidité. Mais pourquoi il y avait plus de comorbidité? Pourquoi il y avait plus de surpoids? Pourquoi il y avait plus de maladies cardiovasculaires? Parce que c'est des gens qui étaient un peu exclus du système de santé en amont. Et donc du coup, quand il y a eu cette épidémie, ils ont été frappés plus durement aussi. Mais sur la crise Covid, à force de dire c'est le Covid, c'est ce virus terrible, etc., ce virus, c'est un virus qui frappait les gens les plus fragiles. Donc on aurait dû protéger les plus fragiles, mais surtout il faut qu'on en tire les conséquences. Mmh. Et moi, il y a deux conséquences qui me semblent à tirer. Et malheureusement, en disant tout vient du Covid et donc c'est une exception, en fait, on ferme les yeux sur ces deux vraies causes des morts du Covid. La première cause, c'est le déficit structurel du système hospitalier, c'est le fait d'avoir fermé des services d'urgence, fermé des lits hospitaliers, fermé des réanimations. Donc on a un système qui est en permanence en flux tendu, qui est extrêmement mal géré et qui fait que la moindre goutte d'eau va faire déborder le vase. Alors le Covid a été une grosse goutte d'eau, mais le Covid n'a fait que révéler des problèmes que nous, urgentistes, et que tous les patients ou tous les collègues connaissent depuis des années, depuis 15 ans, l'hôpital se casse.
Et que vous alertiez depuis déjà longtemps.
Mais regardez 2019, la grève des urgentistes, en disant on veut un rehaussement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire le budget qui est voté par le Parlement, et on répondait « Ah ben non, 3 milliards, on n'a pas d'argent ». Regardez combien a coûté le Covid, ça a coûté plus de 600 milliards. Mmh. La deuxième cause du Covid, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est le déficit de prévention. Parce que c'est une maladie, on voit bien les malades en réanimation, 1 sur 2 étaient obèses. Mmh. Donc il faut protéger ces patients obèses, ça paraît une évidence, mais surtout il faut lutter contre l'obésité. Aux États-Unis, il y a eu une hécatombe, pourquoi ?
C'est un fléau.
Parce qu'il y avait beaucoup de patients qui étaient en surpoids. Et absolument. Pourquoi en Afrique, à contrario, et heureusement, il ne s'est pas passé grand-chose en termes de mortalité, c'est parce qu'il n'y a pas d'obèses. En revanche, le même phénomène, si on ne prend pas en compte cette prévention, le même Covid ou un autre, hein, sera peut-être le Covid 2035, le Covid en Afrique va être meurtrier parce que l'Afrique est en train de souffrir du diabète, du surpoids, etc. Et nous, si on ne maîtrise pas la prévention et si on ne maîtrise pas ce fléau qu'est l'obésité avec des enfants qui commencent à être atteints, en 2035, on aura, si on a le Covid ou un autre agent infectieux,
beaucoup
on aura
plus de dégâts.
Une hécatombe. Donc c'est vraiment un enjeu. Se cacher derrière le Covid et pour les responsables politiques, alors certes, ça permet de se dédouaner, de ne pas voir la réalité, de se dédouaner des responsabilités du passé, mais ça me semble assez criminel et donc il faut à tout prix remiser et investir sur la prévention et investir sur le soin. Et si on investit aujourd'hui, ben je vous dis, le trou de la sécu dans 30 ans, il sera largement comblé.
Ben, ce sera ma dernière question, Gérald Kazek. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'au niveau des pouvoirs publics, Il y a eu une prise de conscience ou le début d'une prise de conscience, notamment sur la situation de l'hôpital. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites au moment du début de la crise. On se souvient du président de la République faisant des annonces fortes en disant il y aura des plans de rattrapage, il y aura de l'argent, il y aura des moyens. Est-ce que vous sentez qu'il se passe quelque chose ou est-ce que on est encore très loin?
Aucune décision. Il y a eu juste des effets d'annonce et on ne prend absolument pas en compte, alors c'est pas qu'une histoire d'argent, oui bien sûr il faut mettre de l'argent, mais c'est surtout une vision sur le système de santé avec une structuration des niveaux 1, 2 et 3 de prise en charge, des territoires qui sont actuellement où il n'y a plus de maternité, il n'y a plus de services d'urgence, il n'y a plus de médecins, donc il faut rhabiller ces territoires. Donc là ça demanderait un petit peu de moyens, mais surtout ça demande de la bienveillance vis-à-vis des professionnels de santé, de la bientraitance et de les remettre aux manettes. On a un système qui est gestionnaire depuis une quinzaine d'années qui nous emmène dans le mur. Donc il faut arrêter d'avoir ces gestionnaires à la tête. Il faut remettre des professionnels de santé, et je ne parle pas que de médecins d'ailleurs, avec des patients d'ailleurs, et revenir sur une vraie, j'allais dire, décision partagée avec les politiques, avec les patients et avec les professionnels de santé. Si on n'a pas compris ça, eh bien malheureusement, on va accélérer. Et moi, mon sentiment, c'est qu'on accélère dans le mur. Alors, et on va privatiser de plus en plus et on va créer des inégalités de santé qui vont être de pire en pire. Alors il y a un truc qui est sans arrêt rabâché, c'est la santé connectée, les start-up, etc. Très bien la santé connectée, mais il ne faut pas qu'elle soit déconnectée de la réalité du terrain. Et la santé connectée, il y a une autre inégalité, c'est qu'il y a une fracture numérique qui est réelle sur le territoire, aussi bien dans l'utilisation des outils que dans des zones blanches, etc. Et c'est absolument pas des télécabines qui vont remplacer des infirmières ou des médecins.
Merci beaucoup docteur Gérald Kazek, je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, directeur médical de Doctissimo, qui je recommande à tout le monde, parce que c'est très intéressant, des vidéos et des informations sur les maladies, la prévention, etc.
Qui s'appelle la santé du monde d'après, préparez-la aujourd'hui en disant bah, justement la prévention, le tissu hospitalier, etc., tous ces mots du Covid, ça doit nous servir dans notre vie quotidienne.
Et donc, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et donc, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.
Et si on en parlait du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?». Une émission consacrée à la santé et aux inégalités sociales. Et après le docteur Gérald Kierzek, j'ai le plaisir d'accueillir dans la seconde partie de l'émission le docteur Nicolas Leblanc. Bonjour.
Bonjour Alexis.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je vais vous présenter puisque c'est la première fois qu'on a le plaisir de vous recevoir dans l'émission. D'abord pour dire que vous êtes conseiller municipal délégué au projet de territoire de santé à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, également conseiller santé du groupe Vive et élu dans une association d'élus, élus santé publique et territoire. Et dernier point, mais c'est important pour introduire cette deuxième partie d'émission. Vous avez coécrit avec Alfred Spira un ouvrage qui s'appelle « Santé, les inégalités tuent » aux éditions du Croquant. Et finalement, c'est un petit peu l'objet de notre émission, c'est où est-ce qu'on en est entre la situation sanitaire des populations et la corrélation qu'on a pu faire et qu'on fait entre le fait d'être plutôt moins bien soigné dans certains territoires, plutôt moins bien accompagné, suivi quand on appartient à des catégories sociales les plus modestes et l'état de santé, quoi.
Déjà, tout d'abord, merci Alexis me donner la parole et de nous donner la parole, puisque ce livre, cet ouvrage, on l'a fait avec le professeur Alfred Spirin, qui est membre de l'Académie nationale de médecine, épidémiologiste de renom, et moi-même, je suis médecin de santé publique. Ce qui nous a frappé avec Alfred Spirin, c'est que on parle beaucoup de soins et d'inégalités d'accès aux soins, et nos collègues cliniciens en parlent avec beaucoup de précision, notamment dans le cadre des urgences ou de spécialités comme la pédiatrie ou la psychiatrie. Mais ce qui détermine la santé, c'est-à-dire le fait d'être ou pas malade, d'être en bonne ou en mauvaise santé, n'est pas que corrélé aux soins. Les déterminants qui sont les plus importants pour la santé sont d'abord et avant tout les modes de vie. Alors on a bien sûr sa biologie, sa génétique qui rentre en ligne de compte, mais il y a l'accès aux soins qui rentre en ligne de compte, bien entendu, mais c'est surtout aussi son environnement de vie, son environnement de travail, son environnement social, le pays, le système de santé ou le système économique et social dans lequel on vit, ses revenus qui déterminent pour majeure partie la santé des populations. Et ce qui nous frappe, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de santé dans ce pays, il y a quasiment une ambiguïté sémantique parce qu'on parle du soin en fait. On parle pas de la santé, on parle du soin. Comme s'il n'y avait point de salut avant que la maladie soit révélée. Or, être en capacité de rester en bonne santé nécessite des actions au niveau du système social, au niveau du système économique, au niveau de l'éducation, au niveau du logement, au niveau du travail, etc., etc., etc. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce livre, c'est que les déterminants de santé et du coup les inégalités qui se trament en santé, elles sont d'abord et avant tout liées à ces conditions de vie. Alors c'est pas nouveau, ça a été démontré au 19e siècle par Louis-René Villermé qui avait déjà lors de publications fameuses avait montré les conditions extrêmement difficiles à l'époque des ouvriers qui expliquaient d'une mortalité notamment infantile mais pas que colossale. Et aujourd'hui, on a une différence d'espérance de vie entre les 5% les plus riches et les plus pauvres chez les hommes qui est 13 ans, c'est-à-dire que les 5% des hommes les plus pauvres ont une espérance de vie autour de 72 ans et pas 83 ans comme on a l'habitude de le dire. Donc c'est extrêmement important de bien comprendre que ces inégalités, elles se trament tout au long de la vie et pour des raisons qui ne sont pas liées à l'accès aux soins. Même si une fois qu'on est malade, c'est extrêmement important d'avoir un accès aux soins.
Bien sûr.
Les deux choses ne s'opposent pas, elles se complètent maintenant.
Alors, on a même vu à travers les statistiques données par l'INSEE que les inégalités sociales de santé apparaissent avant la naissance. Puisqu'on est aussi déterminé par, l'hygiène de vie de nos parents, et même pendant la grossesse, puisque par exemple, il y a un chiffre qui, moi, m'a frappé, mais c'est que socialement, 34% des ouvrières continuent à fumer pendant la grossesse, alors que chez les cadres, on est à moins de 5%. Et donc, ça veut dire derrière que on a un rapport à son corps, à la santé, qui est quand même intimement lié aussi à alors son niveau de sans doute d'éducation, d'information, mais c'est des chiffres qui sont assez assez frappants, quoi.
Bah écoutez, ce que vous dites là, Alexis, est fondamental, c'est qu'on sait très bien qu'il y a, bon, la cause des causes est le revenu et la capacité socio-économique à pouvoir survivre et vivre. Ça, c'est la cause des causes, pourrait-on dire. Mais un des éléments fondamentaux qui explique les différences d'espérance de vie est aussi l'éducation. Il y a un mot bien mal traduit en anglais qui s'appelle la littératie, qui veut dire l'alphabétisation et qu'on a traduit en français par littératie, en y mettant l'orthographe qui va bien, mais qui est définie, je vais vous dire la définition exacte de l'OMS, c'est les caractéristiques personnelles et des ressources sociales nécessaires des individus et des communautés afin d'accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information et les services pour prendre des décisions en santé. Alors derrière ces mots un peu compliqués, c'est quoi? Bah, écoutez, quand vous avez une représentation du corps, de votre bien santé, des comportements qu'il faut avoir, c'est-à-dire manger sain, faire de l'activité physique, pas fumer, et que vous avez les ressources économiques, mais les ressources temporelles et l'énergie pour le faire, la capacité à vous projeter pour arrêter de fumer, par exemple, c'est pas pareil que quand vous êtes dans un mode de survie où la cigarette n'est votre seul loisir, où finalement ça devient un espace de liberté, où le lendemain est consacré à essayer de manger, etc., etc. Donc on voit bien que la capacité à pouvoir adopter des comportements de santé en fonction de son niveau d'éducation et sa capacité à se projeter dans l'avenir. Et ça, c'est cette littératie en santé, donc la capacité éducative à s'emparer correctement des bonnes représentations pour agir, elle est fondamentale et elle démarre dès l'école, mais elle se produit, elle doit se décliner tout au long de la vie. C'est vrai aussi pour observer un traitement, c'est vrai aussi pour pouvoir détecter les signes d'aggravation d'une maladie. Donc ça commence à la préservation de sa santé et ça finit dans la manière de gérer sa maladie chronique jusqu'à la fin de vie. Et on voit d'énormes différences en fonction du niveau d'éducation. Il y a plusieurs études qui le montrent aux États-Unis et en Europe.
Alors, Gérald Kierzek disait un peu la même chose que vous, parce que lui, il considérait qu'il y avait deux causes principales qui pouvaient expliquer ou participer à la formation de ces inégalités sociales dans la santé. Bon, il y avait d'abord l'accès aux soins, quand même, et en particulier la médecine de ville, avec aujourd'hui des zones où il n'y a plus de médecins. Parfois aussi, on a numérisé la prise de rendez-vous, mais il y a aussi des gens qui sont un peu dans la fracture numérique. Et puis, le deuxième sujet, et là, il rejoint aussi ce que vous développez dans votre ouvrage, c'est-à-dire, il dit, la santé, c'est un fait social global, et on a un énorme déficit de prévention, notamment sur les sujets alimentation, sédentarité, sport. Il dit, on devrait avoir dans tous les supermarchés des gens qui sont là, qui donnent des conseils, qui orientent, qui expliquent que la nourriture, c'est aussi un élément de la bonne santé. Et de la même manière, on devrait avoir une incitation, une facilitation de l'activité, en particulier d'activité sportive, parce que c'est deux choses qui contribuent aussi fortement à l'état de santé général de la population.
Alors c'est vrai que déjà faire en sorte que la prévention et les bons comportements de santé soient à l'agenda, c'est plutôt quelque chose de très utile et qui manque jusqu'à aujourd'hui. Pour donner un chiffre, hein, aujourd'hui les dépenses de soins annuelles en France, c'est autour de 210 milliards d'euros. Les dépenses de prévention dites institutionnelles, c'est autour de 14 milliards. Hein. Donc on est
en pauvre.
Et selon les études, on est entre 2 à 6% des dépenses de santé qui sont consacrées à la prévention. Donc on n'est pas un pays qui est très organisé en termes de prévention, et je crois que les pouvoirs publics là-dessus sont en train d'insister pour que les choses se mettent en place. Mais ça veut dire que non seulement c'est éduquer, c'est accompagner et faire en sorte que les comportements de santé soient particulièrement efficaces dans leur transformation. Alors c'est dans les supermarchés, comme le disait mon confrère, c'est là où les gens en ont le plus besoin et là où à un moment donné la force d'impact est maximum pour changer ses comportements. Mais prenez l'activité physique, c'est très intéressant, parce que quand vous êtes un cadre et que vous rentrez chez vous et qu'on vous donne des capacités à pouvoir faire de l'activité physique adaptée à votre maladie ou en prévention, c'est plus facile que de le faire que quand vous êtes déménageur ou vous travaillez dans un abattoir ou dans des...
Vous avez un travail physique toute la journée, donc à la fin de la journée, vous n'allez pas refaire du sport, quoi. C'est un peu...
Exactement. Donc la question ne se pose pas pareil en fonction des populations et des risques. Et donc c'est là où il y a un élément qui doit être mesuré. On appelle ça l'universalisme proportionné, de pouvoir mettre à proportion des besoins et dans des modalités les plus adaptées en fonction des populations exposées. La deuxième chose, c'est qu'il y a des déterminants de santé qui ne sont pas liés à l'accompagnement direct des populations, mais qui déterminent l'état de santé de ces populations. C'est le logement. Je donne un exemple simple. L'espérance de vie des personnes sans domicile fixe, elle est à peu près de 50 ans en France. quand l'espérance de vie moyenne est autour de 80-82 ans, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, quand on a une politique qui est liée au logement, quand on a des politiques qui sont liées au travail ou à la précarisation, qui induit des précarisations dans le travail, il y a des impacts sur la santé qui ne sont pas accessibles à des politiques de prévention directe, on pourrait dire, de sanitaire, si j'emploie un terme un peu décalé, mais pour faire comprendre le propos. Et donc, il est clair qu'un des éléments fondamentaux, c'est aussi de pouvoir évaluer quels sont, sur les politiques sociales, l'impact sur la santé. C'est fait sur l'environnement, c'est peu fait sur la santé. Alors, c'est peut-être compliqué, mais il faudrait sans doute y mettre un peu d'énergie pour le rendre simplifié et accessible. Le logement est un vrai sujet. Le problème d'accès au logement dans les grandes villes, en Ile-de-France en particulier, mais pas que, est un vrai sujet.
Dans les grandes villes en général.
Majeur. Ouais. Et la question du mal logement en France, elle est majeure. Ça concerne plusieurs millions de personnes et ça a un impact sur la santé quand on est dans des passoires thermiques, quand on a des problématiques pour se déplacer et qu'on est des maladies chroniques, quand on a des stress pour le paiement, etc. Quand on est quand il y a une densité humaine importante dans les logements par rapport aux standards. En période d'épidémie, par exemple, on a vu que les endroits où les gens étaient le plus, où la densité par logement était la plus importante, il y avait bien sûr des risques de contamination plus forts, et c'est ce qui sans doute va expliquer, j'ai pas les dernières études en tête, mais c'est sans doute qui va expliquer, on va avoir l'exégèse du sujet, que l'épidémie de Covid a démarré et a flambé en Seine-Saint-Denis beaucoup plus fort que dans d'autres départements.
Avec aussi, sans doute, dans certaines populations, des facteurs de comorbidité plus importants, et Gérald Kierzek a attiré notre attention sur la montée de l'obésité et le fait que beaucoup de gens, les cas les plus graves de Covid, c'était très très souvent une personne sur deux, il a dit, quelqu'un qui était frappé d'obésité.
Mais le tabagisme, la malbouffe, si j'ose dire, et la sédentarité sont trois facteurs qui sont extrêmement marqués par des inégalités sociales de santé. C'est-à-dire que globalement, les CSP- sont davantage soumis à ces facteurs de risque que les CSP+. Il y a de multiples études qui le montrent et on les cite dans notre ouvrage. Ça montre qu'effectivement, il y a des comportements de santé qui induisent des maladies qui sont des comorbidités à d'autres maladies et on rentre dans un cycle infernal. Et c'est pour ça que les épidémiologistes américains, et ça a été repris en Angleterre, parlent du syndrome de la Wittenherbe, et qui est important à comprendre, c'est simplement qu'une certaine frange de la population cumule toutes ces difficultés. Ouais, vous y voyez aussi le problème d'éducation qu'on a évoqué tout à l'heure, et puis vous y voyez aussi des problèmes d'isolement social, que ça soit lié à des structures familiales, que ça soit lié à des difficultés d'avoir des temps sociaux, que ça soit lié ou des difficultés liées à des revenus qui rendent compliqués les temps sociaux de partage, etc., etc., etc. Et donc on parle vraiment je trouve qu'il est très, cette expression est particulièrement explicite, ce syndrome de la Wittenherbe, qu'il y a des gens qui meurent beaucoup plus tôt que d'autres pour des facteurs liés à des facteurs sociaux.
Alors, ça sera ma dernière question. On essaye aussi, vous dressez dans votre dernière partie de vos ouvrages des perspectives ou des pistes, on va dire, pour essayer de réduire ces inégalités sociales dans la santé. Est-ce que ça passe notamment, et je m'adresse aussi à l'élu local, par une territorialisation ou une meilleure prise en compte des situations sanitaires et aussi individuelles, parce qu'on s'adresse à des personnes, je dirais territoire par territoire.
Bah, je pense que la question...
En resserrant la maille, parce qu'évidemment, on connaît un peu l'organisation, les agences régionales de santé, bon, les offres de soins hospitalières, etc. Mais au-delà de ça, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient être des politiques publiques complémentaires qui pourraient renforcer le maillage et en particulier sur l'aspect dont on a parlé, la prévention?
Alors la première chose, c'est qu'il faut que les politiques publiques puissent mettre à l'agenda la réduction des inégalités sociales de santé. Ça, c'est la première chose. Ça paraît une évidence, mais globalement, même si au gré des lois qui ont été votées sur la santé ces dernières dizaines d'années, les inégalités sociales de santé ont de temps en temps affleuré, on ne peut pas dire qu'il y ait une politique structurelle durable. Or, le sujet est suffisamment vaste pour qu'il faut que ces politiques s'installent dans le temps et de manière puissante. La première chose. Deuxième chose, c'est que évaluer l'impact en santé des déterminants sociaux me paraît nécessaire. Aujourd'hui, on le fait pour l'environnement, je le répète, pour la santé, c'est peu peu usité. La troisième chose, c'est que je pense que c'est la mobilisation de tous les acteurs qui est intéressante pour pouvoir inscrire des politiques de prévention ambitieuses et puis aider d'accès aux soins. Et là, je crois que bien sûr l'État joue son rôle et c'est principalement l'acteur de santé aujourd'hui. Mais je crois que la mobilisation des territoires peut être intéressante parce que ben, les communes ou les départements ont l'habitude de travailler avec les associations, ont l'habitude de travailler avec d'autres acteurs, notamment ceux de l'économie sociale et solidaire, mais pas que.
Auprès avec les médecins de ville aussi.
Qu'ils connaissent bien, parce que moi je vois, je suis dans une ville où on a un centre municipal de santé, donc accessible secteur 1, sans dépassement d'honoraires, et où on a une maison de la prévention. Et grâce aux politiques qu'on a pu mener, notamment, je vais donner un exemple sur le Covid, grâce à notre maison de la prévention, on a pu aller chercher des populations qui étaient un peu éloignées de la vaccination et qui sont toujours celles les plus modestes. Et donc, c'est un atout considérable des collectivités locales d'avoir cette connaissance des populations et des acteurs locaux pour pouvoir trouver des solutions. Donc je pense que c'est à tous les étages que les choses doivent être. Aujourd'hui, les municipalités ou les départements ont des prérogatives légales faibles en santé, faibles. Mmh, oui. Celles qui ont fait le choix d'avoir des politiques actives depuis très longtemps ont des compétences, ont des savoir-faire. Celles qui ne l'ont pas fait parce que c'est pas dans leurs prérogatives naturelles, sont plus démunies. Et au moment où on a des problématiques économiques significatives sur les collectivités territoriales, c'est dans un sujet qui est complexe, c'est pas naturellement que les maires ou les présidents de conseils généraux s'attellent à cette mission-là. Donc il faut sans doute un peu plus de cadre, il faut sans doute plus d'incitation, il faut du volontarisme politique pour faire en sorte que à cet étage-là aussi, les choses puissent être convenablement adressées, faites et solutionnées.
Merci beaucoup, docteur Nicolas Leblanc. Je rappelle que vous êtes conseiller santé du groupe Vive, élu conseiller municipal délégué à Fontenay-sous-Bois et également élu dans l'association Élu Santé Publique Territoire. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission consacrée à la santé et aux inégalités sociales. Je rappelle d'ailleurs que vous avez également écrit avec le professeur Alfred Spira un ouvrage qui s'intitule « Santé, les inégalités tuent » aux éditions du Croquant. Et c'était pour ça aussi qu'on avait souhaité vous entendre. Et on vous remercie encore une fois.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.